Et c'est l'heure du journal présenté ce soir par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, sans doute moins d'eurodéputés lors des prochaines européennes pour cause de Brexit. C'est la proposition que vient de faire la commission parlementaire en charge du dossier. Une question, que faire des djihadistes français détenus au nord de la Syrie? Certains de leurs avocats veulent qu'ils soient jugés en France. De son côté, le gouvernement français privilégie plutôt un procès sur place. Dans l'actualité française, le nouvel échec des négociations entre la ministre de la Justice et les syndicats de surveillants, des syndicats qui appellent à poursuivre le blocage des prisons. Carrefour dans la tourmente, le groupe va supprimer 2400 emplois. Le PDG Alexandre Bompard veut proposer plus de bio et développer le numérique. Et puis à la fin de cette édition, nous nous intéresserons au handicap à l'école. Des associations ont lancé ce matin une campagne pour la scolarisation des enfants handicapés en France. Et on commence par donc la France qui vient de tenter de reprendre la main dans le dossier syrien. Une trentaine de ministres des Affaires étrangères ont lancé cet après-midi à Paris un partenariat contre les armes chimiques, alors que le régime syrien est accusé d'avoir utilisé du chlore hier contre une enclave rebelle dans la banlieue de Damas. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson l'a d'ailleurs vivement dénoncé cet après-midi. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
L'une des mesures annoncées, c'est le gel des avoir de 25 entreprises ou responsables d'entreprises soupçonnés d'alimenter le programme syrien d'armes chimiques.
Effectivement, une liste a même été publiée au journal officiel. Alors, parmi les sociétés visées, 3 sont domiciliées en France. Si elles n'ont pas d'existence physique à l'adresse indiquée, 2 ont en revanche des sites internet à leur nom, où sont présentés des systèmes d'énergie solaire, comme des panneaux ou des systèmes d'éclairage LED. Sur le site de l'une d'elles, on peut lire l'effort de notre société et de rendre le monde meilleur avec les énergies renouvelables. Ces entreprises, tout comme les autres visées par cette liste, font partie de 2 réseaux, du Centre d'études et de recherche syrien, qui est le principal laboratoire syrien en charge des programmes chimiques. Ces réseaux facilitent la fourniture de biens entrant dans la fabrication d'armes chimiques, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En 2013, sous la pression de la Russie, la Syrie s'était engagée à détruire tous ses stocks d'armes chimiques, mais certains auraient été conservés. Or, depuis son élection, Emmanuel Macron n'a de cesse de répéter que l'emploi d'armes chimiques en Syrie était une ligne rouge, référence à celle qu'Obama s'était fixée sans toutefois s'y tenir. Mais surtout, la France veut contourner le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU qui bloque toute enquête. Alors, en dressant des listes noires de personnes ou de sociétés impliquées et en prenant des sanctions à leur encontre, les pays membres de ce partenariat veulent cibler les réseaux qui contribuent ou ont contribué à alimenter l'arsenal chimique syrien. Seule réserve, Antoine, aucun responsable du régime n'est mis en cause. Nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments permettant d'engager des poursuites, indique le Quai d'Orsay.
Merci à vous Valérie Crova. Où faut-il juger les djihadistes français détenus au nord de la Syrie? La question se pose avec la chute de l'État islamique. Environ 70 Français, des hommes, des femmes et des enfants, sont en ce moment aux mains des forces kurdes. Certains de leurs avocats veulent qu'ils soient jugés en France. De son côté, le gouvernement français privilégie plutôt un procès sur place. Bonsoir Jérôme Jadot, vous êtes notre envoyé spécial dans ce que l'on appelle le Kurdistan syrien. Alors juridiquement d'abord, où ces Français devraient-ils être jugés ?
Alors c'est à la fois complexe et simple. On commence avec la version simple, celle de Bedran Jiakurd. C'est un influent cadre du régime autonome du nord de la Syrie.
Ces Français appartiennent à un groupe terroriste. Ils ont commis des crimes ici. Donc bien sûr qu'ils doivent être jugés ici. Mais en France aussi, ils ont commis des crimes. Donc selon la loi française, ils devront rendre des comptes là-bas. Si jamais le gouvernement français ne voulait pas les reprendre, ce serait une position de faiblesse.
2 procès, donc une solution qui permettrait aux éventuelles victimes des 2 pays d'assister facilement aux audiences. Impossible en revanche d'être jugé 2 fois pour les mêmes faits. C'est une règle de droit et la ligne de crête, dans certains cas, pour certains actes, pourrait être ténue.
Alors d'un point de vue politique maintenant, qu'est-ce qu'impliquerait un procès dans le nord de la Syrie, Jérôme Jadot ?
Alors d'abord, ça pourrait éviter à Paris de froisser une opinion publique peu encline à voir revenir des djihadistes. Cela pourrait aussi l'obliger à reconnaître, sous une forme ou une autre, le système judiciaire local et donc à légitimer les autorités de cette région autonome. Elle en tirerait un gain politique, mais pratiquement, ce serait très difficile d'organiser ces procès sur place. C'est ce qu'estime Omar Abdulkarim. Il est chargé des affaires étrangères de la région de Djeziri.
Au regard de nos moyens limités, nous préférions que les Français soient pris en charge par le gouvernement français. On a des centaines de terroristes ici. Il faut des prisons, de la nourriture, de la sécurité. On a contribué à sauver l'humanité en combattant le terrorisme. Maintenant, il faudrait que chaque pays reprenne ses ressortissants, membres de l'État islamique, et les juge. Ça nous aiderait vraiment.
L'instabilité politique locale fragilise aussi les éventuels jugements qui seraient rendus par les tribunaux ici. Que se passerait-il, par exemple, si Bachar al-Assad reprenait le contrôle de la région, attention qu'il ne cache plus désormais.
Alors, beaucoup d'enjeux, on le voit à travers la question de ces procès. Il y a aussi une dimension dont on entend peut-être moins parler, c'est la dimension historique.
Oui, les procès servent à rendre la justice, mais contribuent aussi à écrire l'histoire, pour peu qu'il soit public et en tout cas sérieusement consigné. Nadi Mouri est un observateur de l'ONG Human Rights Watch, en visite en ce moment dans le nord de la Syrie.
C'est d'avoir aussi un recueil juridique qui peut faire partie un peu de ce travail de narration de ce que les djihadistes ont fait. Parce que je pense que le procès peut marquer aussi, comme l'ont été les procès de Nuremberg et d'autres, s'ils sont bien menés, une opportunité d'écrire l'histoire. Et qui, à mon avis, jouerait un rôle très pédagogique pour être un chapitre de conclusion à ces crimes horribles qui ont été commis.
Et pour ça, aux yeux de Nadi Mouri, il faut un procès équitable, et donc en France, à moins que Paris ne s'investisse dans un soutien financier, technique, juridique, auprès des tribunaux du nord de la Syrie pour en élever les standards.
Merci à vous, Jérôme Jadot. Je rappelle que vous étiez en direct du Kurdistan irakien. Le nombre d'eurodéputés devrait être révisé à la baisse lors des prochaines élections européennes. Il y en a actuellement 751 et à partir de mai 2019, ce chiffre devrait tomber à 705. La raison, c'est tout simplement le Brexit. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Antoine Maret, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles, un pays en moins, donc des eurodéputés en moins. C'est la proposition que vient de faire la commission parlementaire en charge du dossier.
Oui, bien, cela paraît simple et logique, sauf que, en fait, et comme souvent en matière européenne, cela n'est ni l'un ni l'autre, car s'il est vrai que le traité de Lisbonne plafonne le nombre d'élus au Parlement européen à 750 plus 1, le président, en revanche, il ne s'y trouve aucune référence à un quelconque nombre minimum, ni à l'usage que l'on pourrait faire des sièges devenus vacants à la suite du départ d'un État membre. Par conséquent, quoi qu'il arrive, la totalité des 73 sièges actuellement occupés par des Britanniques ne sera pas rayée de l'hémicycle. Une partie, probablement 27, servira à corriger la sous-représentation des 14 pays dont la population s'est notablement accrue depuis la dernière répartition en date. Avec 5 sièges supplémentaires, la France, vu sa démographie jusqu'à récemment dynamique, est la grande gagnante de l'opération. Reste donc 46 sièges inoccupés. L'idée, c'est de les mettre en réserve pour de futurs pays membres, même si les prochains élargissements de l'Union européenne sont largement au-delà de l'horizon. Mais c'est là que déboule une autre idée, celle d'une circonscription pan-européenne unique qui viendrait se rajouter aux circonscriptions actuelles, nationales ou régionales selon les pays. Certains eurodéputés seraient donc élus dans leur pays et d'autres sur la liste transnationale de leur famille politique. Et voilà 27 autres sièges qui ressurgiraient pour autant que l'assentiment unanime des pays membres se fasse en temps utile pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en France à un seul tour le dimanche 26 mai 2019. Dans cette hypothèse, subsisterait alors en réserve juste 19 sièges ex-britanniques, ce qui permettra de soutenir sans rire qu'on a fait des économies.
Merci à vous, Quentin Dickinson. Toujours pas de gouvernement en Roumanie. Le Parti social-démocrate n'arrive pas à trouver des ministres. La raison, c'est que les candidats possibles craignent de se compromettre avec Liviu Dragnea, c'est l'homme fort du parti et chef de la Chambre des députés, qui est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption. Mais il garde une main forte sur son parti comme un vrai parrain de la mafia. À Bucarest, les précisions de Paul Kozikian.
Le Parti social-démocrate roumain, au pouvoir législatif depuis seulement 13 mois, a réussi une performance inégalée à ce jour, celle de défaire à lui tout seul, sans l'aide de l'opposition, deux gouvernements successifs. Il y a une semaine, donc, un deuxième Premier ministre démissionnait sans se soucier de la visite historique en Roumanie du Premier ministre japonais qui arrivait le lendemain. Résultat, M. Shinzo Abe se retrouve pratiquement sans interlocuteur à Bucarest et repart bredouille après un bref entretien avec le président de la République et une visite sans aucun intérêt au musée du village au bras de son épouse. M. Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, est choqué par l'attitude des autorités roumaines.
Ce représentant un conflit interne entre un parti politique.
Le conflit interne du parti au pouvoir pouvait attendre. L'enjeu de cette visite était beaucoup plus important. Monsieur Abe n'était pas venu en Roumanie pour une visite protocolaire, mais pour établir des connexions économiques et stratégiques à long terme. C'est une énorme gaffe, il me semble. Et c'est les citoyens roumains qui se sont excusés, pas les politiciens. Parce que eux, les citoyens, ils ont compris la gravité de ce geste.
En effet, dès le départ du Premier ministre japonais, plusieurs centaines de Roumains ont écrit des mots d'excuses sur la page Facebook de l'ambassade du Japon à Bucarest, fait qui n'est pas passé inaperçu jusque dans la presse nippone. Depuis, la Roumanie est toujours sans gouvernement. Les bruits courent qu'il n'y a plus grand monde qui souhaite s'associer avec l'image de celui qu'on appelle ici le parrain de la mafia politique roumaine, M. Liviu Dragnea, l'homme fort du PSD et chef de la Chambre des députés.
En Égypte, un nouveau concurrent au président Al-Sisi pour la présidentielle du 26 mars risque d'être écarté. L'ex-chef d'état-major de l'armée, Sami Anan, est accusé d'avoir falsifié des documents pour pouvoir se présenter. Avant lui, trois autres concurrents étaient écartés ou ont dû renoncer à se présenter à la présidentielle. 18 heures passées de 11 minutes sur France Culture, nouvel échec des négociations entre la ministre de la Justice et les syndicats de surveillants. Aujourd'hui encore, il n'y a pas eu d'accord entre les deux parties malgré une table ronde. Les syndicats ont appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires qui dure maintenant depuis 9 jours. Bonsoir Mélanie Juvet.
Bonsoir.
Vous revenez du ministère de la Justice, alors qu'est-ce qui coince dans ces négociations ?
Alors, moins d'une heure après l'ouverture des discussions, les représentants ont claqué la porte un par un. La ministre Nicole Belloubet a proposé une enveloppe de 30 millions d'euros pour les indemnités, avec la création de trois primes, attractivité, fidélisation et sécurité. Et c'est cette dernière qui fait figure de gros point noir pour les syndicats. Emmanuel Baudin, secrétaire général Force ouvrière.
Alors, les primes agressions, ils nous proposent pour 10 000 agents, 1 400 euros à l'année. En fonction, ceux qui la toucheront seront ceux qui auront été le plus agressés. Et pire que ça, enfin, on va diviser les agents. On est en train de créer une prime à l'agression. Donc là où il y a le plus d'agressions, les agents ont de l'argent. Puis ailleurs, ils n'en auront pas. Enfin, on se moque du monde. On est à côté de la plaque.
À côté de la plaque aussi concernant le statut de surveillant pénitentiaire et l'emploi où il n'y a aucune avancée selon les syndicats. La chancellerie n'ira pas au-delà des 1100 ouvertures de postes proposées à la table des négociations. Les représentants appellent à poursuivre le mouvement de blocage des prisons. Christopher d'Orangeville est secrétaire général de la CGT pénitentiaire.
Clairement, notre organisation appelle à poursuivre le mouvement et on va le durcir puisqu'on a vraiment l'impression que la ministre n'est pas apte de gérer ce conflit. Et nous, ce qu'on demande également, c'est qu'un médiateur du gouvernement vienne prendre la place dans les négociations puisque là, on a des acteurs en face de nous qui ne sont pas capables de gérer la situation.
La ministre de la Justice devrait s'exprimer dans la soirée, mais aucun prochain rendez-vous n'a pour l'instant été fixé entre les différents acteurs.
Merci Mélanie Juvet. C'est l'un des symboles des hypermarchés à la française héritiers des 30 Glorieuses. Le groupe Carrefour va supprimer 2400 emplois via un plan de départ volontaire. 273 magasins Dia vont être vendus ou fermés et la stratégie numérique va être accélérée. Ce sont les grandes lignes du plan dévoilé ce matin par le nouveau PDG du groupe. Carrefour veut se repositionner pour éviter la fuite des clients vers d'autres commerces et veut proposer plus de bio. Bref, toute une stratégie développée ce matin par Alexandre Bompard en direction des investisseurs. Une stratégie cachée jusqu'au dernier moment au syndicat qu'il déplore. Et désormais, ils craignent des projets cachés qui induiraient de suppressions d'emplois bien plus importantes que les 2400 annoncées. Je propose d'écouter Pierre Bareil. Il est délégué central FO au siège de Carrefour à Massy. Il répond à Anne-Laure Choin.
Sur 10 000 personnes, ça fait globalement une personne sur quatre qui perd son emploi. À partir de là, c'est quand même relativement angoissant et violent pour les salariés qui vont être touchés. Aujourd'hui, à date, aucune communication n'est faite sur, bien sûr, les structures qui vont être touchées, puisque ceci est des prérogatives des différents comités d'entreprise. Donc, pendant un certain temps, il va y avoir une certaine inquiétude ou une certaine angoisse pour des centaines de salariés. C'est une annonce, mais derrière, il peut y avoir des projets cachés. Aujourd'hui, rien n'est indiqué sur la numérisation, sur l'automatisation des caisses, sur l'automatisation, la robotisation de la logistique. Et vous avez noté que dans le plan qui a été communiqué, vous avez 2 milliards potentiels d'économies. 2 milliards d'économies sur la logistique et les coûts de structure. Ceci indique très clairement qu'il y risque encore d'avoir dans cette traduction, peut-être des plans qui vont s'annoncer au fil de l'eau. Il est clair que l'évolution technologique, l'évolution du commerce, la concurrence fait que le produit n'est pas statique aujourd'hui et va amener éventuellement de fortes perturbations dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
Des chercheurs qui s'inquiètent d'un éventuel retard de l'ouverture de la ligne 18. Elle est censée relier Orly à Saclay dans l'Essonne dès 2024 dans le cadre du métro du Grand Paris. Sauf que la rumeur laisse entendre que l'ouverture pourrait être beaucoup plus tardive et des scientifiques s'en émeuvent dans une lettre ouverte publiée sur le site du Monde. Parmi eux, le député marcheur Cédric Villani, joint au téléphone par Sophie Delpont.
Le premier problème, c'est que tous les acteurs ont calé leur calendrier sur celui de ces transports. Pour prendre juste un exemple, le déménagement de l'hôpital appelé à devenir l'hôpital groupement hospitalier Nord-Essonne sur le plateau de Saclay a été prévu pour 2024 en tenant compte de ce que le métro devait y arriver aussi, et tout le reste a été pensé ainsi. On va se retrouver face à un problème d'engorgement qu'on connaît déjà et qui va s'aggraver encore dans les années à venir et qui deviendra juste invivable.
Pour vous, ce serait une trahison si cette promesse n'était pas tenue ?
Ce sera vécu par les acteurs qui ont signé, qui ont convaincu leur conseil d'administration. Ce sera vécu comme une trahison par les établissements d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, publics et privés, par des acteurs comme EDF qui a installé un gigantesque centre de recherche et développement sur le plateau, par des acteurs comme INRA, Agro Paris Tech, qui s'est déménagé dans un contexte, qui a fait des déménagements dans un contexte plein d'imprévus, par des acteurs comme l'École normale supérieure de Cacheron qui a accepté de déménager d'un endroit très bien desservi par les transports en commun vers un autre où tout est à construire. Tous ces acteurs qui ont engagé et pris des risques pour réaliser ce projet verront le manquement à la parole de l'État comme une trahison.
Cédric Villani avec Sophie Delpont. Les élèves en situation de handicap ont bien du mal à rester scolarisés dans une classe ordinaire. À l'âge de 6 ans, ils sont 85% dans ce cas. Mais à 10 ans, le pourcentage chute à 45%. Et au fur et à mesure de leur scolarité, ils sont orientés vers des classes et des établissements spécialisés, à tel point que l'on compte seulement 1% d'étudiants handicapés en France. C'est pour pallier cela que des associations ont lancé aujourd'hui une campagne pour la scolarisation des enfants handicapés en France. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Antoine Maret.
L'opération qui comporte un kit de sensibilisation pour les enseignants du primaire a été présentée dans une classe de CM2 d'une école dans le sud de Paris, en présence de la secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel, et vous y étiez ce matin, Hakim.
Oui, informer, échanger, rassurer, c'est l'objectif de cette rencontre entre la secrétaire d'État qui a elle-même une fille autiste, les associations et les enseignants. Depuis la loi de 2005, la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire est obligatoire, une évidence pour Amalia qui est en CM2 et qui a des élèves handicapés dans sa classe.
Dans ma classe, il y a des élèves handicapés, de l'handicap mental, et ça ne me pose pas problème, mais on ne se rend même plus compte qu'il y a des handicapés dans notre classe. Ils arrivent à être autonomes et à s'occuper de tout seuls.
Pourtant, si aujourd'hui ils sont 300 000, leur scolarisation n'est pas toujours évidente. Près de la moitié d'entre eux décrochent à la fin de l'école primaire, notamment à cause d'un manque de formation des AVS, auxiliaires de vie scolaire et de leurs professeurs. Car chaque handicap est spécifique. Les besoins ne sont pas les mêmes, selon que l'on soit aveugle, en fauteuil roulant ou autiste, comme nous l'explique Jacques Béringer, délégué national de la PAJE, Association de placement et d'aide pour les jeunes handicapés.
L'enfant autiste, il peut être soit complètement renfermé dans son coin, il ne communique pas, ou alors il est hyperactif, il fait... Voilà, donc on est confronté à des situations inhabituelles pour lesquelles on n'a pas été préparé et pour lesquelles il va falloir trouver des stratégies parce qu'on est en permanence dans la recherche de stratégies pour inclure les élèves en classe.
Des stratégies qui devront passer aussi par des modules obligatoires dans toutes les ESPE, écoles supérieures du professorat, où sont formés les enseignants, ce qui n'est pas le cas actuellement, un constat que reconnaît Sophie Cluzel et qui promet des mesures pour la rentrée.
Nous mettons en place, dès la rentrée de septembre, une plateforme Internet pour pouvoir répondre en trois clics aux premières questions que se posent les enseignants par rapport à la situation de handicap qu'ils accueillent, qu'ils scolarisent. Et ils peuvent aller jusqu'à des notions de magistère et jusqu'à l'appel à une personne aux ressources expertes, comme l'ont très bien dit les associations.
Ah oui. Enfin, rappelons que seulement 1% des handicapés suivent des études supérieures à l'université ou dans les grandes écoles, ce qui explique en partie le fait qu'ils soient deux fois plus nombreux à être au chômage.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Demain, la France sera coupée en deux. Au sud d'une ligne allant de Biarritz à Strasbourg, c'est le soleil qui dominera. Au nord, des nuages et même de la pluie sur la Bretagne et la Normandie. Température douce et homogène, 11 à Brest, 13 à Paris, 15 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak.